R22, tout mon
R22, antenne, tout mon
Radio Brouhaha.
Alors, Radio Brouhaha, c'est donc maintenant. Alors, en effet, c'est un Radio Brouhaha inversé auquel on a droit. Parce que, d'une part, on a effectivement l'absence pour des raisons de santé graves de Jean-Christophe Normand, dont il va être question. Donc, l'ordre de Brouhaha, c'est cette émission qui est au cœur du festival et qui interroge la question de la littérature au sein même du Festival Extra, eh bien, se réorganise. Et du coup, je prends la parole, je prends un peu le pouvoir dans l'émission de Radio Brouhaha pour avoir le plaisir, cette fois, de retourner l'émission de radio vers celui qui d'habitude la porte, c'est-à-dire Lionel Ruffel. Alors, du coup, je dois dire que c'est un grand plaisir d'avoir ce moment d'échange autour de la table avec Lionel et ses invités, parce que quand même, ce sont quand même tes invités qui sont autour de la table, tout simplement parce que, évidemment, depuis 3 ans qu'on a créé le Festival Extra, on a cette conversation à distance, conversation de pensée qui remonte aussi à longtemps, autour de la question du hors-livre, autour de la question de la littérature exposée, autour de ce qu'est aujourd'hui la littérature contemporaine. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le redis, moi c'est vrai que tes écrits, ta pensée, tes articles, les numéros que tu as pu diriger, tout ça a beaucoup nourri en quelque sorte l'objet littéraire qu'est aussi le Festival Extra. Alors donc, grand plaisir d'avoir enfin cette conversation, parce qu'il faut dire aussi qu'on n'a pas souvent le temps de se parler et discuter. Et c'est
pourquoi pas le faire en public ?
On peut le faire en public, voilà, parce que là, c'est pas faute de t'avoir régulièrement sollicité, d'avoir offert proposer des dimanches à la campagne, mais rien n'y fait, on n'y arrive pas. Et donc voilà, donc là maintenant tu ne peux pas y échapper et on va enfin discuter. Alors, je voudrais prendre comme point de départ, on va parler de Jean-Christophe Normand assez rapidement en son absence, mais je voudrais venir sur le livre que tu as publié il y a quelques mois maintenant, presque un an, qui est Trompe la mort aux éditions Verdier, et qui est une visite d'une grotte. D'une grotte qui est une ancienne imprimerie qui se trouve en marge d'une université en ruine, d'université fermée aussi, qui est un peu comme ça désertée. Et tu visites cette grotte dans laquelle tu nous emmènes et qui est au fond pour toi et qui va devenir d'ailleurs vers la fin du livre aussi un véritable musée de la littérature, presque un palais, puisque ce que tu évoques au passage de ce livre, ce sont des grands textes de la littérature ancienne et puis un texte plus contemporain autour de cette question de narration. Il y a un passage sur les mille et une nuits, il y a un passage sur le Décaméron de Boccace et puis un texte sur l'insurrection qui vient. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais un peu, c'est revenir sur cet état de la grotte, sur cette grotte qui devient musée, sur cette grotte qui est un espace, parce qu'aussi dans le Festival Extra, au fond, on a d'autres espaces. On a la maison musée de Michel Houellebecq, imaginée par Alice Lescane et Sonia Dersipolsky. On a le textodrome de Dominique González-Forster, qui vraiment conçoit la littérature comme un espace de texte, et donc qui sort de l'objet livre pour devenir un espace du texte. Qu'est-ce que toi, t'es venu faire dans un espace ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre de littérature, un livre aussi sur la littérature, mais qui commence d'abord, au fond, par la visite guidée d'un espace, qu'est-ce que ça dit, je dirais, de, peut-être d'un certain rapport à la littérature ?
Alors, sur la visite du musée, la visite de l'espace, je crois qu'il y a plein de choses qui se superposent. Hein. Mais sur la visite d'un musée et d'un espace, il y avait quand même cette situation très particulière que tu as rappelée, qui était l'université fermée. Et il se trouve que c'est pratiquement arrivé, puisque mon université a fermé quelques jours, il y a presque un an et demi maintenant, pour des raisons à la fois sanitaires et politiques, disons. Et qui est une institution que je voyais comme une institution un peu en ruine, et par ailleurs le lieu où on avait l'habitude de se réfugier avec Mathilde même, qui est ici là, Camille y était aussi, mais Mathilde était dans ce groupe qui a fourni la base un peu imaginaire de ce livre,
hein. Mathilde Forget, qui est à ma gauche, qui est avec nous, avec qui on va parler tout à l'heure du livre qu'elle a publié, de sa participation au Master de création littéraire de Paris 8.
On avait l'habitude de se réfugier à l'espace Chiasma qui n'a pas complètement fermé, mais qui a cessé ses activités pour devenir autre chose. Et donc, même notre refuge avait fermé. Et il se trouve que dans cet espace, mes étudiants, il y a quelques photos, avaient écrit sur les murs. Ils avaient écrit sur les murs au moment où on travaillait. On en a passé une semaine là. Et puis, c'était une forme de cette littérature exposée dont on a pu parler. Et le côté un peu imaginaire du dispositif, c'était que c'était le dernier reste de cette expression particulière qui était la culture littéraire. particulières qu'on pouvait ici observer. Alors c'est sûrement travaillé par des choses plus structurantes en moins. Est-ce qu'on assiste à une reconfiguration de la culture littéraire ? Par exemple, aujourd'hui, les textes que tu mentionnes, sur lesquels j'ai travaillé, Les Mille et Nuits, le Décaméron et même L'Insurrection qui vient, chacun pose la question d'une culture littéraire hors du livre. Puisque Les Mille et Nuits, c'est un texte qui a été saisi comme livre au XVIIIe siècle, mais qui n'a jamais existé comme livre, ni même comme texte. Et pourtant, c'est une matière narrative qui fonctionne depuis au moins 1200 ou 1300 ans, peut-être plus longtemps. Le Décaméron, ce qui m'intéressait aussi, c'est que c'est une parole vive entre 10 jeunes personnes qui échangent génération. Et le texte dont je parle sur l'insurrection qui vient, c'est le moment où un groupe précédent de Tikkun dit « Il faudrait que les livres sortent d'eux-mêmes pour avoir une forme d'action. » Donc oui, je crois que l'inquiétude qui est en moi et qui est à la fois une inquiétude et une certitude, c'est que les matières narratives, les matières littéraires, du moment qu'elles sont sociabilisées, elles ont une action. Voilà. Et ce qui m'intéressait dans ce moment-là, c'est pas tellement de parler de la mort de la littérature, comme en parlait Johan Ferber l'année dernière, ni de la mort du livre, puisque le livre, au fond, se porte assez bien commercialement, hein, d'une certaine manière, mais peut-être de savoir si on n'est pas en train de passer à un réencodage de la culture littéraire dont le livre ne serait plus l'idéologie centrale. Alors, le musée, c'est un peu amusant. Je me suis aperçu, genre, on n'est pas un paradoxe près dans sa vie, hein, mais j'avais dit qu'il était impossible qu'un musée d'art contemporain existe dans mon précédent livre, Brouhaha, puisque le musée était une invention moderne. J'ai joué avec le dispositif du musée et puis surtout le guide. Ce qui m'intéresse, et je suis très intéressé aussi par l'exposition sur le musée de Michel Houellebecq, j'aime bien parce que le guide, il y a un rapport aussi avec l'enseignant. C'est quelqu'un qui narrativise une histoire et il y a un moyen par guider les étudiants dans l'histoire littéraire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça demande de la narrativité. Et ça transforme aussi l'écriture d'un essai. J'ai dit beaucoup de choses déjà.
Non, mais c'est déjà passionnant. Alors, on pourrait du coup revenir sur Jean-Christophe Normand, puisque tu parles de Jean-Christophe dans un texte qui est un catalogue qui est publié récemment sur cet artiste. Et tu évoques justement la rencontre que tu as faite avec une de ses œuvres au Macval et qui est aussi, au fond, enfin, qui était un peu comme une sorte de correspondant vraiment, je dirais, exposé, enfin, d'une œuvre qui vraiment correspond pleinement à l'idée que tu étais en train d'explorer autour de cette grotte littéraire.
Oui, bien sûr. Alors, cette œuvre, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vue, elle est restée 2 ans pratiquement au Macval. C'est une œuvre monumentale. C'est un mur à peu près aussi grand que celui-ci sur lequel Jean-Christophe Normand a écrit au stylo, à la main, un livre entier qui est un de ses livres qui s'appelle Grand Mekong Hotel. Et c'est vrai que je l'ai visité, mais de manière complètement impromptu, je suis tombé dessus et ça m'a fait très forte impression. Et puis toute son exposition m'a fait forte impression parce qu'il joue sur, par exemple, il travaille sur des livres qui sont couverts et comme cramés. Et notamment, les livres qu'il choisit, c'est Ulysse, Quichotte, c'est sans arrêt des livres qui ont été des livres monstres et ont interrogé l'histoire littéraire. Et nous avions travaillé, toi et moi, à l'occasion de ces numéros sur la littérature exposée, sur cette question de l'exposition de la littérature. Et tout d'un coup, là, c'était l'œuvre la plus monumentale d'écriture exposée que je voyais. Par ailleurs, il y a d'autres œuvres de Jean-Christophe Normand qui m'ont passionné et qui me passionnent. C'est pour ça qu'on voulait l'inviter aujourd'hui. C'est un auteur qui, notamment, écrit le Ulysse de Joyce dans plein de villes à travers le monde, à la craie, au sol, sans prévenir personne. Et il documente assez peu ces performances-là, mais il y en a quelques-unes qui sont documentées. Et c'est assez fascinant ce qui se passe d'un point de vue social dans ces villes qui sont les villes de l'hyper-accélération. Tout d'un coup, cette écriture, elle vient apporter une forme de disjonction dans les flux de la ville. Alors, ça m'intéressait parce que l'écriture a à voir avec les flux. Et on ne sait jamais si l'écriture est là pour accélérer les flux ou pour les ralentir. Et donc, cette œuvre, elle me permet pratiquement de penser anthropologiquement la littérature. C'est ça qui m'a vraiment passionné et qui me passionne toujours dans ce travail-là.
Mais moi, en lisant l'article que tu as écrit pour le catalogue de Jean-Christophe Normand, je me suis dit, au fond, ce qui était intéressant, c'est que par rapport justement au texte de Trompe-la-Mort à cette grotte que tu imagines et dans laquelle tu vas nous guider pour dans, à travers des textes littéraires, c'est qu'au fond, là, on voyait bien la capacité de cette grotte littéraire à sortir elle-même du livre Trompe-la-Mort et à être la matrice d'une autre manière peut-être d'exposer la littérature et l'histoire de la littérature. Dieu sait si c'est un exercice difficile et auquel se livrent pourtant nombre de bibliothèques, de médiathèques, etc. Mais que là, il y avait la matrice, effectivement, d'une installation, d'une exposition assez particulière. Alors, je sais que toi, tu vas aller transporter cette expérience au HKV, la Hausse der Kultur der Welt, à Berlin. Est-ce que ça va aller vers l'exposition?
Oui, alors, je ne sais pas s'il faut dévoiler trop ces projets à l'avance, mais bon, je n'ai aucun problème avec ça. Mais je pense que la difficulté à exposer la littérature, c'est qu'on expose la littérature, justement. Alors qu'il y a une manière d'exposer des matières, des gestes, des pratiques, des actions qui seraient beaucoup plus intéressantes. Ce qui m'intéresse chez Jean-Christophe Normand, c'est que c'est une histoire des écritures, plus qu'une histoire de la littérature. Mon projet en ce moment, c'est plutôt un musée des narrations. Et ce musée des narrations, il sera polymorphe. Ce ne sera pas un musée globalisant. Il sera fait de tout un tas d'expériences qui commencera d'ailleurs par une série de conférences à la Maison de la Poésie, voisine d'ici, durant l'année. C'est en cours, donc je ne peux pas... Mais effectivement, il se trouve que la grotte dont je parle dans Trompe-la-Mort, elle est certes une grotte fermée sur elle-même, mais avec un espoir qu'une sociabilité se réinvente par cette parole. Parce que si je m'intéresse à ce cadre un peu fermé, c'est uniquement parce qu'il produit une communauté. Il produit une communauté qui est ce que je peux ressentir parfois avec certains groupes d'étudiants, que j'ai particulièrement ressenti avec le groupe avec lequel j'avais travaillé avec Mathilde, le groupe qui avait été à Kiasma cette année-là, où tout d'un coup, un peu comme le font les décameronistes de Boccaccio, un moment de fin du monde se retrouve pour réinventer le monde en le peuplant d'histoire. Voilà, c'est ça qui m'intéressait.
Mais alors moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est bon, voilà, cette grotte ou ce musée, ce refuge, cet espace un peu qui serait autrement littéraire. Donc toi, voilà, tu en parles évidemment comme d'un refuge. T'as des moments très très beaux sur la question des ruines du capitalisme aussi, ou un peu une ruine du littéraire, puisque tu penses au livre d'Anatzing et Anatzing a écrit un livre sur les champignons qui poussent dans les ruines du capitalisme. Mais au fond, moi, ce que je me dis quand je vois le festival Extra, quand je vois... voilà, je me dis que, vraiment, nous, le festival ressemble absolument pas à une grotte, puisqu'il est comme ça, dans ce trou ouvert du Forum Moisin. Il ressemble peut-être pas du tout à un refuge. Et je me dis qu'au fond, toi, ce que tu vois, justement, comme une grotte et un refuge, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est devenu le paysage massif, en quelque sorte, ou le paysage évident, pour certains d'entre nous, de ce qu'est aujourd'hui la création littéraire, c'est-à-dire une création littéraire ouverte à tout vent, où des artistes exposent sur les murs, des écrivains exposent à leur tour, voilà, enfin, des gens montent sur scène pour produire de la poésie sonore, des artistes investissent et font un ensemble de textes, comme le fait Dominique. Et donc, au fond, moi, j'ai l'impression que ce que toi, tu dis refuge, pour moi, c'est devenu, en quelque sorte, le cœur assez vivant de ce qu'est aujourd'hui la situation de la littérature. Alors, et la façon dont la vie littéraire s'est reconfigurée. Alors, pourquoi la grotte? Pourquoi le refuge?
Alors, d'abord, tu me connais suffisamment et tu sais que j'ai tellement pratiqué ça, j'ai tellement mis en scène et tellement fait de curation d'événements littéraires que ce refuge, il est très lié à une situation très particulière, à un moment très particulier, je le rappelle, qui est ce moment qui n'est pas qu'un moment, d'ailleurs, qui est une situation de la ruine de l'université. C'est quand même quelque chose dont on parle très peu, mais l'université française est totalement en ruine, la mienne en particulier, et sa situation est très très préoccupante. Par ailleurs, nous, ce qu'on a conçu, par exemple, c'était aussi une métaphore de ce master, dans ces ruines, on a fait pousser un champignon qui, lui, s'ouvre complètement, et dans lequel j'investis, moi, un espoir. Mais ce que tu décris, je pense qu'il ne faudrait pas du tout le décrire massivement. Il faudrait le décrire finement. Il y a dedans, dans cet espace ouvert, des éléments qui sont des éléments de refuge, je pense, par rapport à ce stade avancé du capitalisme, par rapport à la destruction du monde environnant, etc. Et il y en a qui y participent complètement. Si on a commencé à réfléchir sur la littérature exposée, c'était qu'on était à la fois excités, enthousiastes, pour exposer la littérature hors du livre et en même temps je ne vais pas dire inquiet, mais en opposition à cette festivalisation et à cet entertainment littéraire. Dans tout ce que tu décris, il y a des choses qui sont tout à fait passionnantes et puis des choses, franchement, qui ne font qu'alimenter la grande machine libérale de reproduction de toutes les dominations. Et de... Donc, il faut garder, je pense, aux expériences artistiques, je ne vais pas prendre la question de refuge, parce que je ne suis pas du tout toujours dans un refuge, c'est le cas de
partir de ce récit.
Non, pas du tout. Mais je pense qu'il faut garder aux expériences artistiques la capacité à tromper ce monde-là. Mmh. Voilà. Et ce n'est pas toujours ce qu'elles font. Et notamment, ce n'est pas toujours ce qu'elles font dans les festivals et les grandes institutions. Je ne parle pas d'extra, mais...
on pourrait aussi en parler. C'est-à-dire qu'au fond, cette question se pose. C'est-à-dire, effectivement, en sortant du livre, en faisant en sorte que... Voilà, là, ici, on serait dans une configuration possible de la littérature actuelle, eh bien, est-ce qu'on n'est pas effectivement en train d'aller vers la littérature vers une industrie culturelle, vers une dimension festivalière. Et c'est un point très important parce que, par exemple, moi, je suis toujours frappé de l'importance de la poésie dans le champ de l'art contemporain. Et je trouve qu'il y a une raison à ça, c'est que la poésie existant très peu dans le paysage et dans l'économie même littéraire, et étant très peu reconnue par la littérature même aujourd'hui, je dirais, eh bien la poésie trouve des moyens d'existence et des moyens de diffusion et de création dans d'autres lieux, et notamment sur la scène. Combien de poètes ne vivent pas du livre, mais vivent de l'intermittence du spectacle ? Donc, des poètes ignorés par les littéraires, comme John Giorno, ont des expositions entières au Palais de Tokyo. Donc, il y a effectivement ce jeu d'aller investir d'autres scènes. On pourrait dire aussi la même chose sur l'extraordinaire vitalité de la poésie dans l'espace numérique. Mais de l'autre côté, on pourrait aussi se dire que la poésie, c'était au fond ce qui était le plus éloigné de l'industrie culturelle. Et ce qui intéresse l'art contemporain dans la poésie, c'est peut-être parce que l'art contemporain est en ce moment très, très lié au marché, en quelque sorte, ce qui est le plus éloigné aujourd'hui de la dimension marchande, c'est la poésie. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de faire un chemin, un chemin qui verserait ou qui ferait basculer aussi la littérature dans l'industrie culturelle et dans sa dimension, dans ce que ton frère David Ruffel a appelé l'entertainment littéraire.
Alors, je peux te dire, je ne m'y reconnais pas parce que d'une certaine manière, nous, ça fait presque 20 ans qu'avec mon frère et d'autres, on a réfléchi à ça. Et c'était bien parce qu'on était conscients. C'est pour ça qu'on a appelé ces numéros la littérature exposée. C'est le double sens du mot exposée qui nous intéressait. Exposée parce qu'elle gagne les lieux d'exposition, mais elle s'expose aussi à des dangers qu'elle ne connaît pas. Pas précédemment, enfin qu'elle connaissait, mais encodée différemment. Nous, ce qu'on a fait depuis la fin des années 90, depuis le début des années 2000, c'est mener une critique en acte de ces choses-là. C'est-à-dire, c'est en les faisant, en les expérimentant, qu'on peut les, non pas du tout les contourner, mais qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et il faut tenir un cap, je crois. Et ce cap, il est important, c'est-à-dire maintenir ce qui nous importe dans le littéraire. Ce qui nous importe dans le littéraire, c'est pas son moi, ce qui m'importe, c'est ni son industrie, ni ses formes, ni forcément son économie. Par contre, il faut très bien connaître son industrie.
Ni ses formes.
Non, mais pas tellement ses formes. En tout cas, pas ces formes quand elles sont réduites juste à un site comme celui du livre. Mmh. Par exemple, j'ai toujours, en tant que contemporanéiste, j'étais toujours surpris quand mes collègues disaient à partir des années 97, il y a un tournant majeur dans la littérature. Ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est-à-dire, il n'y a pas d'évolution formelle du littéraire dans le livre depuis le début de la modernité. C'est faux de dire ça. Par contre, il y a des transformations radicales en termes de conditions du littéraire. Et ça, il faut les accompagner pour un empowerment, c'est-à-dire il faut agir dessus. C'est ce qu'on essaie de faire. Il me semble que dans ce cas-là, il faut rester petit pour y arriver. Il faut rester petit et pas trop, parce que sinon, ça devient compliqué.
Claire.
Oui. Et c'est vrai que dans ton travail, Lionel, il y a souvent cette question de c'est quoi la littérature à l'extérieur du livre, c'est quoi cette littérature qui est dans les autres supports. Donc notamment, tu as travaillé avec des personnes qui font la littérature comme bande dessinée, littérature comme atelier d'écriture, la littérature comme contrat BDSM. Il y a plusieurs supports qui maintenant, et je pense qu'un support qui est très présent dans Trompe-la-Mort, c'est le support de la collectivité et comment, en fait, la forme qu'on est en train d'étudier, c'est peut-être pas juste le livre ou la narration comme c'est dans le livre, mais comment ce genre de narration entassée, on dit, ou emboîtée, laisse vivre une collectivité parce qu'il y a une sorte de pluralité de voix. Et donc, ça me fait penser à Brouhaha, ton livre avant Trompe-le-Mort, où tu parles notamment de public et de contre-public littéraire. Et est-ce que tu penses que tu es en train de créer certains espaces pour des contre-publics qui peuvent se rencontrer, peut-être?
Alors, créer des espaces temporaires... La définition d'un public, c'est qu'il est toujours temporaire et performatif. C'est-à-dire, il est in situ, pratiquement, ce public-là. Donc, des contre-publics, j'en crée pas. Sinon, j'ai pas ce rôle démiurgique, j'ai pas ce pouvoir. Par contre, on crée des conditions pour que des contre-publics s'inventent et se saisissent des choses. Et moi, ce que j'aime faire, comme vous le savez, c'est travailler avec d'autres. Je veux dire, c'est être avec vous et c'est être... Et d'une année sur l'autre, ça change. Et à chaque fois, ça change les modes de pensée. Donc, mais c'est important ce que tu dis. De plus en plus, je me suis aperçu que c'était moins la littérature qui m'intéressait que la parole qui s'échange, les narrations et les sociabilités que ça crée. Voilà. Et ça, parfois, ça prend la forme des livres, parfois, ça prend la forme de l'enseignement, parfois, ça prend la forme de la radio. La radio, tout d'un coup, je me suis dit, ah ben, tiens, c'est un bon médium pour interroger la littérature et le faire avec des gens qui ne se parlent pas d'habitude, quoi. Mais chaque fois, c'est à renouveler. Voilà. C'est pour ça que ça ne s'installe pas vraiment dans le temps et ça nécessite d'être un peu... de rester sur des surfaces qui ne sont pas énormes, quoi.
Cette question de la collectivité que soulevait Claire, je pense que c'est vraiment un point très important. Et c'est vrai que c'est une manière que tu as de travailler, mais je pense que c'est une manière que beaucoup de gens ont travaillé dans à la fois dans un paysage actuel de la pensée, hein, des manières collectives, je dirais, d'agir, de penser, d'écrire, etc. Et puis, c'est vrai que, voilà, nous, on a cette discussion aujourd'hui, mais quand on parle de la revue, c'est du collectif. Mmh. Et quand on fait le festival et quand on en parle, voilà, la conversation qu'on a ensemble, on l'a aussi avec Magali Nartergal, avec Elisa Bricot, qui était là tout à l'heure, avec Nancy Murzy, avec quantité de gens. Et moi, ce que j'aime... Mon rêve, en quelque sorte, pour le festival, serait peut-être que ce soit un collectif, mais tout au moins, c'est l'idée que ce soit un foyer où, effectivement, se retrouvent des gens qui peuvent échanger, partager, en quelque sorte, une conception, même une excitation, je dirais, autour de formes diverses et des voies diverses que peut prendre la création littéraire jusqu'à des endroits où on peut, effectivement, se demander si on est encore en littérature. Et de ce point de vue, je voudrais citer le passage de Trompe-la-Mort, qui est un passage que je trouve très intéressant, où tu parles justement du livre, et tu dis que voilà, le livre est cette frontière entre un dedans et un dehors. Il incarne toute frontière, il est peut-être même la frontière des frontières, et comme toute frontière, elle aura ses gardes, lui assurant son inviolabilité. Alors le gardien, je dirais un peu, de ce frontière, c'est donc, nommons-les, les sciences modernes du texte. Elles ne nous l'apprennent. Il y a le texte et le hors-texte, le paratexte, l'épitexte, étant les deux mondes une différence ontologique. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce livre frontière, ce livre comme une frontière qui marquerait ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas, hein, il y a le texte et le hors-texte, nous voilà, on dit en fond, ces frontières-là, elles se brouillent. On est dans un brouillage de ces frontières et au fond, moi ce que j'aimerais effectivement, c'est que le festival soit justement un festival, je dirais, de ce brouillage des frontières du littéraire.
Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Et puis, c'est pour ça que j'aime bien que ça se soit transformé en festival de la littérature vivante. Parce qu'on a toujours, quand on parle du hors-livre, ou qu'on parle de ça, on croit toujours qu'on est contre le livre. Et par exemple, ce que tu décris quand tu parles de ce livre-là comme le refuge, etc., peut-être ça, c'est ma part un peu solitaire, mélancolique, qui n'est pas du tout ma part active, par ailleurs, quand je travaille avec des collectifs. Et c'est l'articulation de ces choses-là qui est intéressante à créer.
Et puis, on sait que, bon, voilà, t'as participé, parce que t'en parles souvent à des rave parties dans des temps plus anciens, et je pense que la grotte est aussi un lieu de fête, quoi, je veux
absolument
dire. Et je sais que tu la penses aussi comme ça.
Oui.
Alors, la suite, c'est quoi, Claire?
Oui, bah, la fête est une très bonne transition vers l'instant RERQ. Donc, on va faire la première de notre petite insertion RAOQ aujourd'hui. Ici, on est avec Rebecca Chaillon, incroyable metteuse en scène, écrivaine, performeuse, qui va dans quelques instants faire une petite lecture performance. Mais quelques mots sur RAOQ. On est un collectif queer, trans, non-binaire et gwyn. Qui travaillent dans les formes de littérature expérimentale. Et souvent, on fait des performances dans les bars gwyn, dans les festivals queer, dans les espaces d'art contemporain, dans des maisons. L'idée, c'est justement d'essayer de trouver une littérature vivante qui est excitante et qui utilise certains codes de la pornographie. Donc, une petite question pour toi, Rebecca, pour commencer. Donc, ça, c'est un texte que tu as écrit pour le collectif et pas dans ton travail individuel. Et pour toi, c'est quoi un texte qui est écrit pour un collectif et pas solo?
Ça devient un texte, en tout cas, qui est tout de suite mis en confrontation avec 5 autres personnes qui, pour une fois, sont moins isolées. Je me sens moins isolée pour écrire. Voilà. Là, je suis face à des personnes qui partagent au moins mes questionnements autour de la sexualité, des questions raciales, des questions de classe, et avec qui le texte rentre tout de suite en échange. Et moi, qui suis plutôt du genre à être dans l'échec sexuel, ça me permet de mettre une petite note sympa dans leurs textes qui sont comment on peut dire, ah, c'est des pros, quoi. Elles sont pros dans leur sexualité. Elles sont très, très en phase.
Pro de la sexualité. Donc, merci, Rebecca Chaillon.
Je raconte souvent les échecs, voilà. Bon, là, c'est plutôt un texte, pas très échec, mais plutôt une remise en question. Si j'avais eu plus de 5 ans dans les années 80, j'aurais voulu, j'en suis sûre, être Monica Rocaforte dans une église qui mate le prêtre en train de se taper la mariée. Être Monica Rocaforte qui dirige un casino et se fait prendre par les clients. Être Monica Rocaforte qui finit dans les toilettes avec une rousse à lunettes. Aujourd'hui, j'aimerais être Marsha May dans le rôle de la sœur qui éduque son frère. J'aimerais être Marsha May qui se fait levretter dans un food truck en servant des hot dogs. J'aimerais être Marsha May quand elle joue l'autostoppeuse qui apprend à conduire sur les genoux d'un chauffeur chauve. J'aimerais être Marsha May en babysitter qui se fait griller en train de se masturber pour la première fois par la mère de famille qui finit par tout lui apprendre en point of view. J'aimerais être Marsha May qui prend sa douche et se fait attaquer par un cambrioleur à qui elle ne résiste pas plus d'une minute trente sur 46 minutes de film. J'aimerais être Marsha May qui, avec le même acteur, joue une jeune scout perdue dans les bois et qui tombe sur la cabane d'un type qui s'avère être un fétichiste sadique qui la gave de gâteaux d'anniversaire. J'aimerais être Marsha May qui fait un anniversaire surprise à sa meilleure amie, Kimmy Granger, les yeux bandés, Kimmy croit que c'est son mec qui lui fait un cuni. J'aimerais être Marsha May qui joue au billard avec son beau-père et chaque fois qu'elle perd, elle enlève un vêtement pour avoir de l'argent de poche. Et puis la prof de yoga qui se fait trouer le legging en lycra, la cheerleader qui suce toujours en équipe, la mère coincée, la main dans l'évier ou dans le déboucheur de la baignoire, coincée sous sa table basse, coincée dans la fenêtre du train, sous son lit et qui se fait abuser par son beau-fils. La femme qui dort, la mère qui cède à son beau-fils, la demi-sœur qui fait céder son frère par chantage, la geek qui se fait prendre pendant qu'elle joue en ligne, la femme qui parle au téléphone avec son mari pendant qu'elle se fait prendre par son amant, la femme malade qui se fait prendre par les soignants et bien sûr, la femme soignante qui prend profondément soin des malades. Mais je ne serai jamais Monica. Je ne serai jamais Marsha. Je me rends compte qu'elles se sont infiltrées en moi. Que je les ai vues depuis tant de temps que mon regard et mon sexe sont déformés. Que je suis complice de jouir d'elles, tout en sachant la torture que j'exerce sur elles, même derrière mon écran. Que je suis incapable de regarder une femme noire faire ce qu'elles font. Je ne veux pas supporter une femme noire avilie encore, mais puissante dans le sexe. Cette fenêtre-là, je ne veux pas l'ouvrir, non ? Ni même la big black cock d'un frère noir, car nous sommes tous frères, n'est-ce pas ? J'ai été une blanche et hétéra devant mon porno mainstream pendant longtemps. Et aujourd'hui, je crois, je cherche une réparation ophtalmique au Porn Film Festival de Berlin. Je me rends compte que le film où j'ai performé sera diffusé demain, en même temps que mon anniversaire. Double stress, je ne sais pas quoi choisir comme événement à célébrer. J'annule les deux. Et si dans l'œil d'une berlinoire en visite, elle lit la dégradation ? Si elle projette dans mon corps en performance ce mal-être que je projette sur toutes les actrices non-blanches des pornos ? Même si ce film, ce n'est pas du porno, j'ai déjà glissé. J'ai été devant une caméra, j'ai imaginé ce que je voulais y faire. Je l'ai fait, j'ai été nue, j'ai embrassé. On m'a caressé. En fragilité et en puissance et en offrande dans ce film, j'ai déjà glissé. Alors pourquoi pas un peu plus ? Pourquoi ne pas maîtriser encore plus la glissade dans le grand bain ? Je veux reprendre la caméra, me mettre devant et derrière, ne plus faire confiance à mes instincts et mes désirs car ils sont rassis à la racine. L'an passé, à Berlin toujours, j'avais fait le workshop « Comment améliorer la jouissance devant un porno ?» où on devait venir avec sa serviette, sa couverture et son porno préféré. J'ai fait le workshop « Fist » et « Éjaculation vaginale ». Cette fois, je m'inscris à un workshop « Tournage de films porno » réservé aux personnes non blanches pour se réapproprier son image. Cette fois, je vais vraiment tourner un film porno et je vais le faire avec mon cerveau. Tant pis si je mouille moins.
Merci Rebecca Chaillon du collectif Aerial. Et maintenant, on va aller vers la prochaine partie qui va être une interview entre Mathilde Forget et Lionel Ruffel.
Je pensais que j'allais reprendre le pouvoir un moment, mais hein, je ne le reprendrai pas. Hein. Non, c'est bon, c'est moi qui fais l'interview maintenant. Merci Claire. Et donc, je suis très heureux d'accueillir Mathilde Forget. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas vu, vous n'étiez pas là, mais tous les soirs au micro de Radio Brouhaha, on invite une ou un auteur qui vient de publier son premier livre et qui a la particularité de sortir d'un master de création littéraire. Alors, Mathilde sort du master de création littéraire de l'Université Paris 8, mais ce n'est pas forcément de ça dont on va parler. Elle fait paraître à la demande d'un tiers qui vient juste de paraître à cette rentrée chez Flammarion. Chez Grasset. C'était hier, Flammarion. Chez Grasset. Et pour peut-être le résumer en trois scènes, je dirais, parce que c'est je prendrais la... Je dirais plongeon et plongée. Alors, le plongeon, on voit une jeune fille pleine de vie. Cette jeune fille qui est capable de se déguiser en cow-boy le jour de l'enterrement de sa mère, qui semble pouvoir maîtriser plein de choses dans son corps. Elle est un peu spécialiste des plongeons. Elle joue avec sa sœur et sa sœur lui fait faire des plongeons dans une piscine. Et ces plongeons, on se fait peur, mais on tombe toujours dans l'eau et on n'en meurt pas. Et ça renvoie aussi au plongeon de la mère qui plonge dans la folie et qui finit par plonger du haut d'un château qui est une maison psychiatrique et qui elle meurt. Alors que la narratrice est très jeune. Et puis la plongée, alors c'est un peu, je le dis, parce que c'est à la fin du livre, mais c'est...
Il n'y a pas de suspense.
Ouais, non, il n'y a pas un suspense fou. Bon, la plongée, c'est ce baptême de plongée que la narratrice fait en ayant très, très peur des requins, en étant fascinée par les requins, en ayant très peur de cela. Et cette plongée, c'est comme maîtriser cette peur du requin. Et j'ai eu l'impression, parce que c'est un livre qu'on peut vraiment, si vous êtes psychanalyste amateur, c'est un livre génial. Hein, c'est-à-dire, vous avez envie de tout interpréter tout le temps. Moi, c'est un peu mon truc d'être psychanalyste amateur. Et c'est, on voit cette plongée un peu comme cette écriture qui permet de résister à cette folie qui guette, qui par ailleurs s'est transmise à la sœur de la narratrice.
Oui, effectivement, tout au long du... Ça parle beaucoup des peurs et notamment de la peur de la folie, à savoir si elle est héréditaire, à savoir quand est-ce qu'elle arrive. Et effectivement, cette narratrice, sa mère, donc, a été internée et là, elle se retrouve à faire interner sa grande sœur. Et donc, c'est un événement qui va vraiment la bouleverser. Et donc, elle va s'interroger sur ses différentes peurs, notamment à travers le saut dans la piscine, puisque, effectivement, la mère aussi s'est suicidée en sautant. Et cette question de qu'est-ce qu'on fait de nos peurs ? Est-ce que nos peurs nous empêchent ou, au contraire, nous poussent à aller plus loin ? Et effectivement, à la fin, à la demande de la sœur, parce que c'est elle qui lui offre le baptême, elle va faire le grand plongeon final. Donc là, on n'est plus dans la piscine de la grand-mère, de la copine de la grand-mère. On est dans la mer et voilà. Bon, je veux pas, mais il va se passer effectivement quelque chose par rapport aux requins et qu'est-ce qu'on fait de nos peurs, oui.
Et en même temps, la forme de l'écriture de ce livre, qui est très, très subtile, hein, je trouve, c'est pas du tout celle d'une grande plongée. C'est-à-dire qu'il y a une écriture qui est assez dérivative, hein, dans le sens où elle dérive. On sent que la narratrice contourne, et peut-être l'auteur aussi, contourne très souvent l'obstacle, et va tout d'un coup, au lieu d'affronter la question de la mer, va parler des fissures, qui sont des fissures sur les poutres,
les poutres
de l'appartement. Ouais. Ou
Oui, oui. Mais effectivement, il y a quelques temps, je me suis dit que j'avais trouvé l'image de l'écriture qui fait le tour, et comme si on était en face d'un bâtiment, et au lieu de rentrer ensemble dans le bâtiment, dans le vif du sujet, je vais plutôt proposer de faire un peu le tour de la maison, en passant donc effectivement par le traité de l'art de la charpenterie pour parler de la folie, en parlant du requin pour parler des peurs, et après on reviendra comme ça au départ devant la façade, et puis là moi on verra la façade différemment ou pas, et j'aime bien l'idée de pas rentrer dans le bâtiment avec le lecteur, de le laisser après cette promenade rentrer comme il le souhaite.
Mais la fissure, c'est quand même aussi une image de la fêlure, non? Et sans, là, je ne vais pas faire le psychanalyste amateur, mais quand même, parce que ça, elle revient tout le temps. Hein, dans ses, ouais, un petit peu quand même, hein, Jean-Max, je le fais. Hein. Parce que la narratrice fait des recherches sur les fissures, sur les charpentes, sur le bois. Mais l'auteur ne s'interroge pas tellement, on dirait, sur le rapport entre la fissure et la fêlure de la mer, quoi.
Non, après, le point de départ de ça, c'est quand même l'étymologie de la schizophrénie, qui est l'esprit fendu. Et donc, c'est encore cette idée qu'elle vit comme ça, avec cette définition. Et finalement, elle est dans son appartement, et elle voit toutes ses fissures, toutes ses fêlures, et elle s'intéresse à la charpenterie. Et c'est aussi comment se raconter d'autres histoires, comment faire des détours, comment avoir des fictions, voilà, quand on est un peu en danger dans sa vie. Et voilà.
Alors, pour parler un petit peu aussi de la fabrique du livre, hein, parce qu'on est, c'est, comme je le dis aux auteurs que j'invite, on n'est pas ici pour faire vraiment la promotion des livres, mais plutôt pour s'intéresser à comment ces livres, cette littérature vivante qui s'exprime. Alors toi, Mathilde, tu es musicienne par ailleurs, tu avais sorti un album, enfin un EP, il y a quelques années, 4 ou 5 ans, pour lequel tu avais reçu une certaine attention, notamment un prix de la jeune création, ou je ne sais plus
oui,
quoi exactement.
Oui, ouais.
J'aurais aimé savoir si tu trouvais des liens entre ta musique... ou la musique et l'écriture de ce livre.
Oui, pas mal, mais en fait, j'ai mis du temps à le comprendre. Et en fait, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de parallèles avec la composition musicale, et notamment l'histoire d'avoir un thème, d'avoir des modulations, d'avoir des échos. Il y a pas mal d'échos dans le roman. On revient à un autre thème. La question du rythme dans la phrase, en fait, c'est parler à voix haute. Est-ce qu'on est ternaire, est-ce qu'on est binaire? Et en fait, c'est totalement comme la composition musicale, mais avec des mots et du son. Et voilà. Et par exemple, pour la question de l'écriture par le détour, j'avais trouvé aussi ce lien avec la musique qui est la résonance par sympathie. Et dans les instruments à cordes, en fait, on pince une corde pour qu'elle se mette à vibrer. Et parfois, d'autres, alors qu'on ne les a pas pincées, vont se mettre à vibrer. Et dans ce texte-là et dans ceux que j'aime lire, c'est vrai que j'aime bien cette idée que ce qui va vibrer chez le lecteur ne m'appartient pas ou je ne l'ai pas choisi. Il y a des échos qui vont se faire et qui n'étaient pas prévus. Et j'aime bien cette idée, voilà, que ce qui se passe à côté de ce qu'on a voulu nous toucher du doigt.
Ouais. Ah, moi, je l'avais, quand tu m'avais parlé la première fois de cette résonance par sympathie, j'avais compris autre chose, c'est-à-dire
oui,
la manière d'installer aussi, par exemple, une ligne narrative ou par exemple la question de la fissure et de la fêlure, et de s'apercevoir plus tard qu'elle continue à résonner, mais d'une autre manière.
Oui, ça serait plutôt les échos alors en musique,
ouais.
Peut-être,
ouais.
D'avoir la question de l'écho, effectivement, parce que dans le roman, ça revient, mais pour la vibration par sympathie, c'était plus, par exemple, je sais pas. La question de ça se finit en Corse, c'est une île, et j'ai un ami qui l'a lu, il m'a dit oui, l'île pour isoler, pour tout ça. Donc il y a plein de choses qui lui sont apparues, et c'est vrai que moi j'avais pas pensé à ça. Et donc j'aime bien après l'idée d'un livre qui se construit avec toutes les lectures et qui se sont posées sur lui en fait.
Et le rapport, alors maintenant plus moins analogique, hein, je dirais, mais plus dans ta vie, c'est y a un moment écriture, un moment musique, ces choses-là, c'est s'interpénètre. Est-ce que quand tu décides, par exemple, de faire le master de création littéraire, y a un moment où tu sens que la musique ne te permet pas d'aller là où tu veux aller et qu'il faut... qu'est-ce qui se passe, en fait?
Je pense que c'était exactement ça, effectivement, que j'avais vraiment très envie d'écrire sur la psychiatrie et la folie, et que, en fait, la chanson me... ou en tout cas, moi, mon rapport à la chanson, comment je compose des chansons, ne me le permettait pas. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure du livre, et c'est vrai que depuis, j'ai pas composé de chansons. Donc ça a pris un peu toute la place. Et puis là, j'ai commencé un deuxième texte. Et pour l'instant, j'ai pas recomposé de chanson. Après, je continue à faire de la musique instrumentale, à composer instrumentale. Mais en tout cas, le mot, il est maintenant dans l'écriture de romans et moins dans les textes de chansons. Ouais.
Et pourtant, dans le livre, on sent que ce que tu mets en place, hein, c'est... ouais, on nous a pas mis d'eau aujourd'hui, mais je sens que tu... dans le livre, ce que tu mets en place, c'est quand même un livre aussi sur la transmission. Et il y a quelque chose que la narratrice, dont on comprend que c'est proche de ta propre vie, hein, que la narratrice ne veut pas hériter de sa mère, c'est la folie. Et ce que tu mets en place dans le livre, c'est qu'elle hérite au fond de la musique.
Oui, après dans le livre, c'est pas.
Non, c'est pas dit. Ouais, c'est pas dit en fait.
Hein. C'est pas dit, mais
ça, c'est le jeu de l'édition. C'est la quatrième.
Par contre, c'est vrai que Grasset, enfin, en tout cas, on me présente comme une musicienne qui écrit un roman, donc forcément, on fait le lien avec l'histoire de la mère. Mais je dirais que même, enfin, d'ailleurs, dans le roman et même maintenant que moi j'écris, c'est aussi finalement se dire que cet héritage de la musique, est-ce que c'était vraiment le mien aussi ? Et qu'aujourd'hui, peut-être que mon parcours à moi, c'est plus d'écrire des romans et...
Peut-être on va te présenter comme une romancière qui écrit des chansons.
Non, non. Je sais pas.
Tu pourrais peut-être commenter, parce que je trouve cette dédicace, enfin, à la fin, assez intrigante. Bon, c'est à ma mère, évidemment, mais aussi à la folie qui résiste.
Alors moi, j'avais envie de proposer une autre vision de la folie... que celle de l'aliéné et de dire qu'aujourd'hui, finalement, pour moi, j'ai l'impression quand même que la folie peut être un mode de résistance, et en tout cas qu'elle me parle de ça, moi, que la question de l'insensé est peut-être moins dans les HP ou dans les gens qui parlent aux arbres ou qui se mettent à crier dans le métro que dans notre organisation et comment nous, l'ordre établi, comment on est en train de s'organiser. Et que je trouve que parfois, quand quelqu'un devient fou, c'est aussi refuser ce qui est en train de s'organiser. Et c'est une forme de résistance. Et bon, pas par le combat, mais par justement le fait de se retirer, de ne pas y arriver. Et ça dit aussi quelque chose. Et c'était pour moi la volonté aussi de ramener leur discours au centre. Et de se dire qu'ils ont des choses à dire sur le monde, politique et poétique. Et qu'on ne devrait pas... Parce qu'il y a aussi ce terme qu'on utilise beaucoup, qui est le délire, quoi. La parole du fou, elle est délirante, donc bon, elle n'est pas intéressante. Enfin, il y a quelque chose qui un peu, du coup, l'annule, et je trouve ça très, très violent et très injuste d'annuler la parole de quelqu'un. Et qu'au contraire, dans tous ces délires, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à entendre.
Donc, avant de t'écouter, parce que tu peut-être on peut parler d'ailleurs de plusieurs choses qui concernent, disons, ta naissance comme auteur de littérature, est-ce que c'est différent de naître comme auteur de littérature que comme auteur de chansons, par exemple, dans le monde de la musique ? Et comment tu vis un petit peu le fait de voir ton nom sur un livre ? Est-ce que c'est le tien ou c'est un autre nom ? Ou est-ce que, dans le sens, est-ce que tu le vois comme le tien propre ? Ou est-ce que tu deviens autre chose en étant sur cette couverture ?
Non, je vois mon nom, mais ce qui est différent, peut-être, c'est que justement... comment dire, en musique je donnais des concerts, donc j'étais très maître de ce qui se passe, et c'est vrai qu'aujourd'hui je fais des rencontres en librairie, des choses comme ça, il y a quelque chose de plus fragile et c'est une autre expérience, ouais.
Et qu'est-ce que tu prépares là, pour la lecture musicale ? Qu'est-ce que ça va être ? Tu prépares quelque chose ?
Ah oui, pour la Maison de la Poésie, ouais. Oui, j'ai appelé ça pour le moment dans mon ordinateur une mise en scène musicale et sonore. Donc c'est, je pense qu'il y aura des extraits de films parce qu'il y a pas mal la présence du cinéma dans le roman, et je serai avec un autre musicien et il y aura des chansons, de la musique et des lectures des extraits du roman. Donc voilà, je prépare ça en ce moment.
Et peut-être pour renvoyer à ce que disait Jean-Max sur cet écosystème du littéraire qui s'est quand même développé autour de cette mise en scène et de cette spectacularisation, est-ce que tu t'es inspiré d'autres lectures que tu as vues, d'autres formes musicales où la littérature rencontre la musique ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent sur ce plan-là ou finalement tu ne connais pas tant que ça ?
Après, à la Maison de la Poésie, en fait, ils ont quand même... C'est vrai que moi, j'y vais pas mal maintenant, et c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup cette... ils ont en fait cassé la frontière entre la musique et la littérature assez rapidement, et ils invitent beaucoup de chanteuses pour lire des romans et en faisant des chansons en même temps. Donc peut-être la scène de la Maison de la Poésie, oui.
Peut-être parce que vous avez quelque chose à dire, Rebecca et Claire, mais moi, j'aimerais te poser la question que je pose un peu à tout le monde. Pour toi, c'est quoi la littérature vivante ? Tu as 3 heures, hein ? Pour répondre, tu nous envoies une dissertation.
Mais je pense que c'est effectivement ce qui se passe après avoir publié le livre et c'est toutes ces rencontres.
Pas avant, parce que pour toi, ton texte a été très, très, très lu.
Mais après, je suis très solitaire. Alors peut-être que voilà, c'est vrai que j'ai quand même une manière, moi, de travailler. Et je suis très heureuse d'ailleurs d'avoir écrit ce roman aussi dans le master, parce que ça m'a permis quand même d'être plus collective. Mais c'est vrai que moi, avant le roman, je suis très dans ma chambre toute seule et j'ai du mal. Voilà. Et que du coup, une fois qu'il est sorti, en tout cas, ça permet des dialogues et des rencontres et qui sont là, peut-être, la littérature vivante. Ouais.
Ok. On t'écoute ?
Oui, oui.
Alors, on va écouter Mathilde Forger proposer une chanson. Alors, je ne sais pas, peut-être on fait le truc.
En fait, c'était donc la dernière chanson que j'ai composée avant de me mettre à écrire le roman. Et en fait, il y a pas mal d'échos, comme si elle annonçait le roman.
On espère qu'il n'y aura pas trop de micros. Tu veux mettre là ? Regarde, ils t'ont installé double micro. Ah oui. Parfait. Donc, Mathilde, je le dis pour nos millions d'auditeurs, Mathilde rejoint la scène.
Avant la colère, je vous ai tout dit sur les bruits, sur ma mère. Avant la colère, à vous l'inconnu, qu'avant ça je n'avais jamais vu. Je reviendrai au garde à vous. Vous raconter ce que retiennent les garde-fous avant de pouvoir embrasser cent fois ces nouveaux regards posés sur moi. Je passerai vous voir pour compter cent fois cet ancien regard qui fait les cent pas. Je reviendrai au garde à vous, vous raconter ce que retiennent les garde-fous. Et dans les silences de nos rendez-vous, j'entends les ambulances et les fous aux heures souterraines assises face à vous. J'éteindrai les sirènes, j'enlacerai les fous et je reviendrai vous raconter. J'aurai du retard à nos rendez-vous. J'embrasse les regards loin de vous. J'aurai du retard à nos rendez-vous. J'embrasse les regards en restant debout. Je reviendrai au garde à vous. Pour raconter ce que retiennent les garde-fous.
Bravo. Merci Mathilde. Et on va retrouver Claire Finch pour le collectif RERQ pour la dernière séquence de cette émission conclusive.
Oui, et merci tellement Mathilde. Ça m'a vraiment émue. Et maintenant, je suis comme, like, oh là là, what am I going to do with myself tonight? Avec tous ces feelings. Et franchement, quand j'ai des sentiments comme ça, je vais toujours pour le tarot. Franchement, j'y crois tellement dans le tarot. Ça tombe très bien parce que si tu veux, j'aimerais bien te faire une lecture
Ah ouais.
de tarot.
Super.
Donc, je vais te demander, tu utilises ta main droite ou ta main gauche, Mathilde?
Pourquoi?
En gros, c'est parce que la main gauche, si tu es droitière, la main gauche, c'est intuitif.
Non, je veux dire, pourquoi faire? Ça dépend de si c'est pour écrire ou pour autre chose.
Bah, surtout pour savoir ton devenir.
Bah, la main droite, alors.
D'accord. Donc, avec ta main droite, tu vas tirer une carte. Ok. Et ça, c'est un tarot de Christy Rhode. C'est une artiste queer américaine. Et c'est le 9 de denier. 9 of Pentacles. A very solid moment for you. Donc, 9 de denier. 4 days ago, the carrot juice on my counter started growing mold. And it's still growing. En français pour toi. Il y a 4 jours, le jus de carotte que j'ai oublié de mettre au frigo a commencé à faire des champignons et il le fait toujours. Donc voilà ta soirée pour toi, Mathilde.
Merci.
Deuxièmement, je vais demander à Rebecca Chaillon de tirer un de ces deux cartes. Oh, the Eight of Wands. C'est... bah oui, donc c'est un mec qui court avec un sac. Et déjà, c'est une carte qui est pleine d'énergie. Et surtout, que, ça veut dire que si tu as un date ce soir, franchement, ça va se passer bien. Donc, il y a un petit poème pour toi, pour le 8 de bâton en français, Eight of Wands. Eight of Wands. Je me retrouve ligoté par une temporalité que je ne comprends plus. C'est très shibari bondage, ce time. By time, I mean era. Isn't the extreme contemporary just a synonym for into talking about time? I'm worried, Rebecca, that I need sex to survive. Donc, très bonne soirée pour toi aussi. Et enfin, pour une troisième et dernière carte, je vais demander à un membre du public. Donc, je ne sais pas qui veut savoir leur avenir. Peut-être
tout le monde.
Toi, parce que tu es tout prêt. Donc, choisir une carte. Et c'est Strength. Oh, c'est trop beau, la force. Franchement, c'est une hyper belle carte pour le commencement de, bah, presque de ta week-end. Donc, pour toi, Strength ou la force? Le contrat BDSM ne limite pas administrativement le potentiel d'action, mais plutôt s'accumule en permanence. Cities mirror cities, buildings push up from fragmented mirrors multiply, and every time you think of fucking me, this happens. I'm paraphrasing something that Kathy Acker wrote in one of those posthumously published emails. In that book that I always tell people is gross because can you imagine everybody knowing how insecure you are during sex, but knowing that after you're dead? We all like to think that death grants a solid dignity, but really it just opens your life to endless interpretation and a lot of gossip. Enfin, si t'as de la chance. Maybe I'm just sensitive, and this interpretation of the text has no literary foundation, but reveals instead the personal. I go crazy with vulnerability when I'm inside of you. La carte de la force veut dire que toute interprétation commence par l'intime. In the Countersexual Manifesto, Paul Preciado wrote that the dildo is the only real signifier of relation because the dildo predates the lover and is still there when the lover leaves. Nique l'amour, aime que t'es good. We finally left the party because you are so tired. And it was emotionally volatile to walk into a room full of people you had already fucked. This part of Ménilmontant curves around a closed cafe. The yellow street light sticks low to the gutters before burning out into a murky haze just below a very black sky. Tout ceci se passe il y a une semaine, mais hier je t'ai baisé avec la queue que j'ai utilisée pour la première fois. C'est un gode extra moche, donc il vaut mieux l'utiliser dans les situations où on ne le voit pas trop. that first morning when you lifted up your binder and you found it lying there and you screamed, "That's what you fucked me with? I wish I had never seen it." But already I had that thick cock that you like in myself, so I used the other one on you. You're holding this one cock in me, and I'm pulling the other one slowly out of you, stopping when I feel it catch. What is the base of this iteration? Le sexe était plutôt bon. But that night a week ago in the street, you're telling me about ton ex, SM. And I say that I want to try some scenes with you. Tu me dis, je vais te montrer, bébé. And I say that I don't know what to do. So now these two dildos, which outlasted our last relationships, are on the edge of a new communication between the two of us. And I'm having a hard time concentrating on them, concentrating on you moving the cock fast back and forth. Well, I'm using both hands now to push harder into you, and these cocks are our crypto contract. Soon we'll make an agreement. I just have to figure out first, qu'est-ce que tu veux de moi que je veux te donner? What iterations or residual dominations we've accumulated that we can undo, recite, or play out together. Merci pour cette belle lecture de la force.
Merci, Claire. Bah, on arrive au bout de cette deuxième émission. On se retrouvera demain avec Dora Jan et Laure Limongi et bien sûr le collectif RERQ. Merci Mathilde.
Merci à toi.
Merci Jean-Max. Merci, merci Rebecca. Merci Claire. Et merci, je vais lancer un petit morceau qui résume pas mal toutes les invitations littéraires de cette session. Comme on est déjà pas mal en retard, maintenant vous avez une performance de Elsa Escafre.